Bonjour Thomas.
Bonjour Guillaume Hernière, bonjour
à
tous.
Et pour commencer, une affaire du jour qui n'a rien à voir avec les fautes d'orthographe, d'autres types de fautes.
Oui, l'affaire du jour, en tout cas, s'est présentée comme telle par Libération. Révélation sur un trafic d'État, c'est la une de Libération. Le journal révèle en effet le rôle central de l'ancien patron de l'OCTIS, l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, François Thierry. Son rôle dans l'importation en France de plusieurs dizaines de tonnes de cannabis, un système d'une ampleur inédite, lit-on, qui s'apparente à un trafic d'État. Voilà ce qu'écrit Libération. Voilà l'histoire. En octobre dernier, à Paris, les douanes mettent la main sur plus de 7 tonnes de cannabis entreposées dans trois camionnettes garées boulevard Excelmans, dans le 16e arrondissement. Une facture retrouvée dans une des camionnettes et des traces ADN permettent rapidement de remonter jusqu'à un certain Sofiane H, bien connu des services de police. L'homme habite justement boulevard Excelmans dans un penthouse de 300 mètres carrés avec piscine intérieure dont le loyer de 9000 euros est réglé chaque mois en cash. Or, nous dit-on, Sofiane H a surtout la particularité d'être un indic de l'OCTIS. Il est directement traité par le patron de l'office et capable d'importer chaque mois plusieurs tonnes de shit en livraison surveillée. C'est une technique d'enquête qui permet de laisser passer de la drogue afin de démanteler des réseaux de revendeurs à l'arrivée. Une technique légale, précise Emmanuel Fonstein dans son enquête dans Libération, sauf qu'en l'espèce, Sofiane H semblait bénéficier d'une protection en haut lieu, ce qui lui permettait de poursuivre ses activités sans jamais être inquiété. Et le journal pose la question, quelle était la nature des relations de Sofiane H, le plus gros importateur de cannabis en France, ni plus ni moins, avec François Thierry, pour bénéficier d'une telle impunité. Libé retrace son histoire, active depuis ses 20 ans, arrêté, évadé, installé en Espagne. Sofiane H est repris, extradé en France, condamné en 2011 à 13 ans de prison. Mais il a une bonne avocate, Anne-Claire V, qui n'est autre que la compagne de François Thierry. 3 ans plus tard, l'avocate, spécialisée en droit de l'immobilier dans un grand cabinet d'affaires, parvient à faire libérer le trafiquant dans des conditions rarissimes, réservées à certains repentis. Et désormais, écrit Emmanuel Fonstein, Sofiane H va s'imposer comme le plus gros trafiquant de l'Hexagone grâce à la protection de François Thierry. Je précise à ce stade que H est une initiale de son nom de famille et pas un surnom. Un ancien indic de François Thierry, Stéphane V, a livré de nombreux éléments à l'inspection générale de la police nationale, IGPN. Il affirme notamment avoir été mandaté par François Thierry pour garder une villa dans le sud de l'Espagne entre mars et avril 2012. Pendant près de 3 semaines, a-t-il expliqué, 5 hommes présentés comme des policiers français se relayaient pour charger et décharger sur la plage des dizaines de paquets remplis de drogue récupérés sur des zodiacs venus du Maroc. Drogue, révélation sur un trafic d'État, c'est à lire donc ce matin dans Libération.
C'est une histoire stupéfiante, Najat Vallaud-Belkacem. Une histoire, malgré tout, qui donne le sentiment qu'en France, il y a des pans entiers de l'État qui sont dans un état troublant. Qu'est-ce que vous en pensez, même si, évidemment, sur le fond de l'affaire, j'imagine que vous n'avez pas d'informations particulières.
Vous êtes sûr de vouloir me donner la parole sur ce sujet ? Non, honnêtement, je suis aussi stupéfaite que vous en écoutant cette histoire. J'ai vu que Libération l'avait sortie, mais ça paraît tellement énorme. C'est juste incroyable et particulièrement choquant si c'est vrai. Bon, il faut attendre de savoir si c'est vrai, bien sûr.
Autre chose, Thomas Baumgartner, Le Figaro, de son côté, propose une plongée à Kilis, en Turquie.
Oui, c'est Delphine Minoui qui s'y est rendue. Kilis, une petite ville turque à la frontière syrienne, une ville qui est candidate au prix Nobel de la paix pour son accueil des réfugiés syriens et qui est aujourd'hui rattrapée par le conflit voisin. Depuis le mois de janvier, rappelle la reporter, Kilis, qui se trouve à 3 km seulement de la frontière, et la cible de Daesh. Jusqu'ici, tout se passait plutôt bien, raconte un commerçant. On cohabitait sans problème entre Turcs et Syriens. Aujourd'hui, mon magasin est vide, les gens sont méfiants. En plus de 4 mois, explique Delphine Minoui, 20 personnes ont péri sous une pluie intermittente de roquettes. Illustration directe d'un conflit ravageur qui déborde de plus en plus sur le territoire turc. Aujourd'hui, le nombre de réfugiés, plus de 120 000, il dépasse le nombre d'habitants, environ 100 000, dans un pays qui accueille au total plus de 2 700 000 Syriens. Dans la rue, les regards ont changé. Les Turcs nous reprochent d'avoir apporté la guerre avec nous, dit un commerçant syrien. Ils nous accusent aussi de prendre leur boulot. Ici, je ne me sens plus en sécurité, ajoute-t-il. Le gérant d'un café confirme. Ce sont nos frères musulmans, il faut les accueillir. Mais là, on commence à saturer. Le maire de Kilis plaide pour la constitution d'une zone sécurisée en Syrie, le long de la frontière. Mais, dit-il, tant que la communauté internationale ne s'attaquera pas à l'origine du problème, c'est-à-dire Bachar al-Assad, la situation ne cessera de dégénérer et le nombre de réfugiés ne fera qu'augmenter. L'histoire de Kilis, la ville candidate au prix Nobel de la paix, c'est à lire dans Le Figaro ce matin.
Najat Vallaud-Belkacem, au sujet des réfugiés, trouvez-vous que la France en a assez fait ? On a pu lire qu'elle en avait très peu fait, ne serait-il pas possible, justement, pour l'éducation nationale, pour le ministère que vous représentez ici, d'en faire plus ?
La France a pris des engagements de recevoir un certain nombre de dizaines de milliers de réfugiés. C'est vrai que quand on regarde le nombre de ceux qui sont véritablement venus s'installer en France, ils sont en deçà de ce qu'on avait imaginé. Donc force est de constater que ça n'est pas la première destination choisie par les réfugiés. Et peut-être de nous interroger sur le pourquoi d'ailleurs. Je pense que c'est aussi des années et des années de débats sur l'identité nationale, la peur de l'étranger, etc., qui ont fait ça, même si depuis 2012, les choses ont évidemment heureusement évolué. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'au-delà de la question de l'accueil en tant que tel des réfugiés dans nos pays européens, il faut faire toujours plus et mieux. Il faut aussi qu'on se pose la question du rôle que peut jouer l'Europe à l'attention de ces populations qui sont aujourd'hui dans des camps. Et moi, c'est une obsession pour moi, une hantise, que de penser à toutes ces générations sacrifiées d'enfants qui grandissent dans des camps, que ce soit en Syrie, en Irak, en Turquie, sans éducation. Et donc, je suis en train de travailler sur un projet qui consisterait à avoir une espèce de corridor éducatif, comme on a un corridor humanitaire, et qui consisterait pour nous, pays européens, en tout cas la France le fera, à envoyer des enseignants volontaires, évidemment, pour passer quelques mois auprès de ces enfants et leur donner un semblant d'éducation.
Un mot, Fabien Escalona, le politologue qui est...
Juste un mot, justement, pour préciser qu'il y a eu un congrès international de Sciences Po qui a été annulé en Turquie, parce qu'il y a une offensive très grave contre les libertés académiques là-bas par Erdogan. Et je trouve... pour ma part, très choquant, l'accord qu'il y a eu entre l'Union européenne et Erdogan, parce que, évidemment, il faut discuter avec la Turquie. Le problème, c'est que c'est un État qui est en train, il n'est pas déjà autoritaire. Bon, les relations avec les pays autoritaires, c'est obligé, sauf qu'il est en train de devenir autoritaire, et ça pose vraiment question.
Thomas Baumgartner, suite et fin de la revue de presse.
Oui, pour terminer, envisageons la question du Brexit. C'est dans un mois le référendum sur la sortie de l'Union européenne par la Grande-Bretagne. C'est le 23 juin. Envisageons le Brexit et posons la question, si le Brexit a lieu, l'Europe continuera-t-elle de parler anglais, qui ne sera plus parmi ses membres que la langue de l'Irlande, pays champion de l'UE, du dumping social et de Malte, dont la population équivaut à celle de la ville allemande de Bochum. Celui qui fait ses remarques ce matin, c'est Xavier Combes, dans la tribune publiée par Libération. Xavier Combes est le président de l'Association française des interprètes de conférences indépendants, et vous entendez sa voix ici régulièrement sur France Culture, il officie ici volontiers. Le propos dans sa tribune est une défense des différences et une charge contre l'uniformisation de la langue au profit du globish, autrement dit le global English, qui est loin d'être la langue anglaise. Le globish, dit-il, est un outil au vocabulaire indigent, dépourvu de nuances et qui supporte l'approximation grammaticale et syntaxique. Pour travailler dans l'économie mondialisée, on nous somme d'avoir la maîtrise du globish. C'est une défense des différences dans les langues. Dans le mythe biblique de Babel, écrit Xavier Combes, les hommes sont punis par Dieu car ils ont eu l'arrogance de vouloir bâtir une tour jusqu'au ciel. Dieu les condamne à parler dans une multitude de langues. À rebours de cette prétendue malédiction, écrit-il, il convient de redouter une tour de Glo-Babel-ish où les hommes ne disposent plus que d'une seule langue, dénominateur véhiculaire commun dont la pauvreté et l'unicité du système de pensée étiolent leur esprit. Unis dans la diversité, promouvoir la diversité des langues, c'est hisser l'Union européenne à la hauteur de sa devise, écrit Xavier Combes, cette devise unie dans la diversité. Unis dans la diversité, qui est aussi, apprend-on dans cette tribune, la devise de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Étonnant, non ? Bonne journée.
Merci Thomas Baumgartner.